Je suis contente de vous retrouver comme tous les mercredis, c'est notre rendez-vous sur Radio Scoop avec un invité qui est au cœur de l'actualité musicale. Et cette semaine, c'est un auteur, un musicien qui raconte notre quotidien, qui parle de lui, qui parle de nous aussi. Et ça, il le fait depuis 20 ans. Mais je t'aime. Après deux albums collaboratifs, il revient en solo, c'est Grand Corps Malade, avec un album qui s'appelle Reflet. Il s'agit de son 8e album studio et nous fait l'honneur d'être avec nous sur Radio Scoop pour en parler. Bonjour Grand Corps Malade.
Bonjour.
Merci de nous accorder un moment sur Radio Scoop.
Avec plaisir.
Alors là, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai écouté avec attention ton dernier album, Reflet. Et j'ai lu qu'à l'origine de ce projet, tu avais en tête de l'appeler Portrait. Pourtant, il a muté vers un autre nom qui est Reflet. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le fond
de Non, cet pas vraiment. J'avais une espèce d'a priori comme ça. Je me suis dit, tiens, l'album pourrait s'appeler Portrait. Chaque chanson pourrait être le portrait de quelqu'un ou de quelque chose, d'un lieu. Et puis, voilà, rapidement, j'ai vu que les chansons que j'écrivais au feeling ne rentraient pas forcément dans le format portrait, mais ils rentraient dans le format reflet. Parce qu'un reflet, c'est un peu comme un portrait, mais peut-être des fois un peu déformé, un peu plus diffus. Et puis c'est un mot un petit peu plus poétique, puis tu peux mettre pas mal de choses, donc c'est le reflet de notre époque, de notre société, c'est mon reflet. J'ai un morceau qui s'appelle Autoreflet, donc c'est mon reflet dans le miroir, et puis c'est le reflet aussi des gens qui me parlent dans la rue, c'est le reflet du public, parce que souvent ils me disent que telle ou telle chanson, ils ont l'impression que je l'ai écrite pour eux, donc du coup finalement voilà, je sais plus trop qui se reflète, est-ce que c'est mes paroles qui se reflètent dans la vie des gens, ou est-ce que c'est le contraire, voilà, je sais plus trop qui est le miroir de l'autre.
Le message que tu fais passer avec ce titre-là, c'est quoi ?
Je les remercie et je leur rends hommage d'être là et de me soutenir et de me suivre depuis bientôt 20 ans. Et puis en même temps, c'est pour ça aussi que l'album s'appelle Reflet. C'est que c'est hyper important pour moi ce que me disent les gens quand ils me disent telle phrase ou telle chanson. J'ai l'impression que tu racontes ma vie. Donc évidemment, on a des vies différentes et finalement, on est quand même traversés un peu tous par les mêmes sentiments. La joie, la peine, l'amour, l'échec, le doute. Et donc tous ces sentiments-là, quand tu les écris en chanson, bah, y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dedans. Donc voilà, on se reflète les uns dans les autres. Donc c'est ça l'idée de ce morceau.
Sur cet album Reflet, tu collabores avec Moziman et Guillaume Poncelet, avec qui tu as déjà travaillé. C'est important pour toi la fidélité professionnelle ?
Franchement, pour être tout à fait honnête, je ne sais même pas si là c'est une histoire de fidélité. J'ai juste envie de travailler avec des tueurs et eux, ils sont tellement bons.
Alors dans cet album, il y a un titre qui s'appelle La Sagesse, qui évoque le temps qui passe et qui est truffé de références à une époque que moi aussi j'ai connue. Pépita, Marie-Ange Nardi, Charlie et Lulu, ouais. L'époque des années 90-2000.
Mais non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves.
Est-ce que tu as une forme de nostalgie de cette époque-là ?
Alors moi, je suis un vrai nostalgique. Alors là, vraiment, la nostalgie de cette époque-là, oui, un petit peu. C'est vrai que si j'en parle dans une chanson, c'est forcément quelque part que je me dis que c'était marrant, que c'était une belle époque.
C'est la nostalgie d'une époque ou c'est la nostalgie d'un état qui était ta jeunesse à l'époque ?
C'est peut-être un peu tout ça, ouais. C'est peut-être surtout ça. Mais en tout cas, moi, je suis un vrai nostalgique. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Il y a pas mal de chansons qui respirent la nostalgie dans tout ce que j'ai écrit. Mais en tout cas, je revendique le fait que c'est pas une nostalgie qui me plombe et qui me casse le moral et qui m'empêche d'avancer. Au contraire, c'est une espèce de regard bienveillant sur mon passé, de me dire bah voilà, c'était bien, j'ai eu la chance de vivre ça et ça fait ce que je suis aujourd'hui, et c'est une nostalgie limite qui me porte pour avancer. Ouais.
Alors, c'est peut-être plus de la mélancolie.
Ouais, c'est joli le mot mélancolie.
Est-ce que tu te sens moins jeune pour rebondir sur ce titre La Sagesse?
Je me sens plus sage surtout. C'est ouais, pour ceux qui n'ont pas entendu le titre, c'est un morceau qui s'appelle La Sagesse, et je dis La Sagesse pour pas dire La Vieillesse, et voilà, c'est un morceau où je m'amuse à constater qu'il y a plein de trucs où j'ai plus les références, où heureusement que mes enfants sont là pour m'apprendre des trucs. Et c'est vrai que quand tu bascules, depuis que t'as des enfants, tu passes ta vie à leur apprendre des trucs, à leur transmettre des trucs. Et d'un seul coup, quand c'est eux qui disent « Mais non, papa, regarde, fais comme ça sur l'ordi. » Ah ouais,
c'est
merde.
C'est plus toi qui es en première ligne dans voilà. La transmission.
Et puis surtout, même musicalement. Voilà, mes deux enfants, ils ont 10 et 13 ans, ils adorent le rap. Et grâce à eux, je découvre plein de nouveaux rappeurs.
D'ailleurs, dans le titre, tu le dis avec, je pense, beaucoup d'humour. Tu dis « C'était mieux avant le rap ». En l'occurrence, visiblement, t'écoutes du rap d'aujourd'hui avec tes fils. pour autant, du rap avec de nouveaux rappeurs qui n'existaient pas dans les années 90-2000, tu prends plaisir à les écouter aujourd'hui?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Juste, voilà, je fais un petit clin d'œil à ça, parce que je commence le morceau en disant j'ai atteint un stage où je me dis que la télé, c'était mieux avant, que le rap, c'était mieux avant, que moi, c'était mieux avant. Donc, c'est une intro. Et évidemment que j'ai une tendresse particulière pour le rap des années 90, la première école, etc. Et que j'écoute toujours ça. Mais bien sûr qu'il y a plein de belles choses dans le rap actuel et dans la musique actuelle, évidemment. Il y a la musique urbaine, comme disent les journalistes, c'est certainement c'est certainement les plus créatifs. Il se passe énormément de choses dans cette musique-là. Donc, ouais, j'essaye de me tenir un peu au courant. Ouais.
Et puis, nous, on l'a vu évoluer aussi, parce qu'à l'époque, elle avait quand même une place assez en marge, alors qu'aujourd'hui, elle est jouée sur les radios.
C'est les meilleurs vendeurs, et sont joués sur beaucoup de radios, c'est les meilleurs streamers, comme on dit. Donc, ouais.
Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire.
C'est Grand Corps Malade qui est mon invité ce soir sur Radio Scoop. Quand on a vécu un accident comme le tien, ça a bouleversé, j'imagine, l'équilibre de ta famille. Est-ce que ça fait de toi aujourd'hui un père plus précautionné avec tes enfants?
Cet accident, il est arrivé bien avant que j'aie des enfants, donc je peux pas dire qu'il y a un avant et un après dans l'éducation de mes enfants. Forcément, j'ai un peu ça en tête, de le savoir que malheureusement la vie, elle est hyper fragile et qu'en une seconde, il peut se passer des dingueries et tout peut basculer. Forcément, je l'ai quelque part en tête puisque ça m'est arrivé. Évidemment que comme tout père, j'essaye de faire attention et de leur dire attention à ci, à ça. Je pense que je suis pas trop relou, ça va. Je suis pas devenu la névrose absolue de il faut absolument tout faire attention à, parce que tout peut arriver. Non, je suis j'ai conscience de ça, je leur apprends 2-3 trucs pour faire attention, mais ça va, je les laisse vivre.
Pour ceux qui étaient passés à côté, mais je pense qu'il y en a quand même assez peu, hein, tu avais raconté ton parcours dans un roman autobiographique qui s'appelle Patient, qui avait été adapté au cinéma, que tu avais co-réalisé avec Mehdi Idir, qui était une première aventure au cinéma, et là tu es en train d'en écrire un autre chapitre avec une histoire complètement différente, une autre ampleur, tu peux nous en parler?
Ouais, après Patient, il y avait eu La Vie Scolaire, donc pareil, un film... plutôt petit film, petit moyen, voilà. Et là, on est sur un autre schéma. On est en train de réaliser le biopic de Charles Aznavour. Donc là, gros dossier, un monument. Et puis c'est un film d'époque, parce qu'on s'intéresse surtout à la jeunesse et à l'avant-succès d'Aznavour. Et Aznavour, dans le film, est joué de main de maître par Tahar Rahim, qui a fait une énorme performance. Je dis qu'a fait, parce que lui, sa partie, elle est finie. On a tourné tout l'été.
Maintenant, c'est vous qui passez au montage.
On est en post-production, on est en montage. Donc oui, c'est un énorme projet, mais ça fait évidemment 2 ans qu'on est dessus, entre l'écriture du scénario, la préparation, les repérages. C'est un film où il y a plein de décors différents, donc c'est un film qui sera dense, et qui sera bien, je l'espère, en tout cas on s'y emploie. C'est une aventure incroyable, et on se devait d'être à la hauteur du grand Charles Aznavour.
C'est l'écriture qui est au centre de toute ton existence, d'ailleurs t'en parles de ton rapport à l'écriture dans cet album. L'écriture qui t'amène à la musique, l'écriture qui te fait écrire des gros romans, qui te fait faire du cinéma, c'est ton moteur dans la vie?
En tout cas, c'est mon moteur dans mon métier, ça c'est sûr. Certainement que l'écriture a une place importante même dans ma vie en général. En tout cas, dans mon métier, comme tu dis, c'est le point de départ de tout. C'est le départ de mes chansons, de mes films. Voilà, je suis entré dans le cinéma par l'écriture, parce qu'un jour, je me suis dit que ça m'intéresserait d'écrire un scénario. Mais voilà, à la base, c'était l'écriture. Donc, j'aime raconter des histoires sous toutes leurs formes.
T'en parlais tout à l'heure de ce titre qui est une très jolie déclaration d'amour que tu fais à tes fils qui s'appelle « Retiens les rêves ». Ce morceau, moi quand je l'ai écouté, m'a donné la larme à l'œil et des frissons, je pense que je suis pas la seule. Quelle a été leur réaction à eux quand ils ont entendu ce texte écrit par leur père?
Ouais, ils ont été émus et c'est bizarre de les voir émus sur une chanson, parce que voilà, souvent ils montrent pas une émotion, ou alors plutôt l'émotion qui les fait rire ou qui les fait bouger la tête. Là, ils étaient vraiment émus. Je me rappelle, je leur avais fait écouter la musique, ouais, parce que j'avais adoré, c'est une musique de Vincha. J'avais fait écouter la musique, et j'avais envie d'écrire une chanson pour eux sur cette musique. Et ils avaient adoré la musique, ils ont dit ouais, elle est trop belle. Donc j'ai dit bon, c'est bon. Déjà, ils aiment l'instru, donc maintenant à moi d'écrire un beau texte, et ouais, ça leur a beaucoup plu. Ouais.
Grand Corps Malade est notre invité sur Radio Scoop. On est ensemble jusqu'à 20h.
Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire.
C'est Grand Corps Malade qui est mon invité ce soir sur Radio Scoop. Tu chantes de plus en plus aussi dans cet album. Tu prends confiance, tu prends des cours de chant?
Non, j'en ai pris un tout petit peu, parce que déjà ça a démarré sur Plan B. C'était les mêmes limites sur Plan B, donc l'album Avant Mesdames. C'est la limite là où je chantais le plus, parce qu'il y avait 2 chansons, Tu peux déjà et Patrick. une déclaration d'amour à Patrick Balkany. déjà là, je sais.
Je passe à côté, c'est vrai, pour vraiment que j'écoute ça.
Je t'invite à écouter cette chanson, ça s'appelle Patrick. Et du coup, là déjà je chantais. Et du coup, chanter en studio c'est facile. Il y a des machines qui peuvent te régler ça si tu l'as pas bien fait. Par contre, sur scène, voilà. Donc du coup, j'avais pris un peu des cours de chant pour la tournée Plan B. Et depuis, j'en ai pas repris, mais voilà, je m'entraîne un peu tout seul. Et,
ils sont plus à l'aise
et après,
avec le chant.
Voilà, je fais pas des effets de voix de fou. Hein, je chante dans ma tonalité, dans ma tessiture. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Et pour le bien d'un refrain, pour que tout le public chante avec toi, la partie un peu chantée, elle est utile.
On parlait de la place de l'écriture tout à l'heure. Dans Autoreflet, tu l'évoques aussi. Tu évoques aussi ton rapport au succès dans cette chanson. Et tu dis qu'en gros, ça te fait fuir le star system. Tu t'en protèges de ça?
Je vais être obligé de tout reciter, sinon je vais le faire à travers. Je dis: j'aime le stress de mes concerts, pas le strass de mes confrères. Ce que le succès confère, souvent je préfère le contraire. Du showbiz naissent des pratiques qui ne seront pas mon choix. Je ne cracherai pas dans la soupe, mais j'en prendrai pas deux fois.
J'écris donc je suis et je suis grand corps malade.
Tout est là, je ne cracherai pas dans la soupe. C'est-à-dire que je fais partie de ce système-là et j'en suis très fier et très content et je vais très bien avec ça. Je suis dans un milieu commercial où je vends des albums et je fais partie de ce système de show business. Mais en tout cas, voilà, je ne vis pas que là-dedans, loin de là. Et vous ne me verrez pas dans toutes les soirées, chaque semaine ou chaque... Je ne sais pas quand sont ces soirées d'ailleurs. Mais voilà, j'ai toujours les mêmes potes d'avant le succès et c'est eux le plus important. Donc voilà, j'aime mon métier et il y a plein de gens formidables dans ce métier. Mais il y a aussi plein de trucs que j'évite.
Voilà. Tu parles de tes potes d'avant le succès, que tu évoques aussi dans ce titre-là, puisque tu dis, je te cite,
on
je peux
banlieue.
Vivre sans ma banlieue, mais pas sans mes banlieusards. Tu as changé de lieu de vie, mais pour autant pas forcément d'entourage.
Ouais, c'est ça, exactement. J'habite à Paris depuis 10 ans. Moi, pendant 35 ans, j'ai habité à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Et puis, je suis allé à Paris, un peu sur la pointe des pieds, en me disant, est-ce que ça... Bon, c'était aussi parce que, voilà, pour des raisons familiales, ma femme, tout ça, elle avait envie de vivre un peu à Paris. Et du coup, je m'étais dit, mais la banlieue va trop me manquer. Et en fait, pas tant que ça, elle me manque un peu, j'y vais de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, par contre, les potes, et même les potes dans mon travail, tous mes collaborateurs, on va dire, toute l'équipe la plus proche, bah voilà, il se trouve que c'est que des mecs de banlieue et du coup, bah voilà, on a importé la mentalité de banlieue dans notre petit label indépendant, dans nos bureaux et dans notre quotidien. Donc voilà, donc même si j'habite plus à Saint-Denis, ça va, la mentalité ne me manque pas.
C'est quoi la mentalité de banlieue?
C'est difficile à dire. C'est beaucoup de vannes, c'est énormément de vannes. Ça, c'est une journée avec nous, faut pas être susceptible, ça c'est sûr. Beaucoup de chambrettes et puis... voilà, peut-être une espèce de recul sur les choses, une espèce de, ça peut peut-être paraître prétention, mais de rébellion. Mais même, tu vois, moi je suis pas un rebelle, j'ouvre pas ma gueule tout le temps, je me bats pas avec tout le monde, mais il y a un petit truc dans le cerveau qui me fait prendre un peu de recul en disant voilà, te laisse pas faire là-dessus, tu as toujours un petit rapport à l'autorité, une lucidité par rapport à ce qu'on nous donne à voir ou à entendre en disant voilà, je me fais pas forcément avoir. Donc bon, c'est pas facile à raconter la mentalité de banlieue, mais en tout cas, voilà, il y a une espèce d'énergie et un caractère qui est là, quoi.
Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire.
C'est Grand Corps Malade qui est mon invité ce soir sur Radio Scoop.
J'ai rêvé.
Toi, t'enchaînes les projets, on parlait de Plan B, donc je suis passée à côté de ce titre sur lequel je vais me pencher, Patrick. Mais il y a eu Mesdames en 2020, avec une victoire de la musique, avec le succès de cet album, qui est un album de duo dédié aux femmes. Il y a eu cet album éphémère avec tes amis Gaël Faye et Ben Mazué. Et arrive un film, et arrive ce nouvel album Reflet. Est-ce qu'il y a des temps morts parfois dans la créativité, dans ta vie, où t'as besoin d'enchaîner les projets?
Il y a des temps morts dans l'écriture. C'est-à-dire que j'écris pas tous les jours, que ce soit un film, une chanson, pour moi, pour un autre. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de temps mort de boulot. C'est-à-dire que je suis toujours à une des phases, voilà, comme tu dis, en ce moment, voilà, il y a trois projets, on va dire. Il y a l'album qui est fini, mais dont on fait la promo. Il y a la tournée qu'on prépare. Et puis, il y a la post-production, le montage du film. Je suis toujours à différentes étapes de différents projets. Mais du coup, ce n'est pas tout le temps une partie purement créative.
Et malgré ça, tu arrives à construire un équilibre où tu as du temps pour souffler, pour être en famille, pour être avec des potes. Tu n'es pas toujours en train de bosser?
Non, surtout bah, là, quand je suis à Paris, parce que je ne suis pas encore en tournée, donc que je fasse du montage ou de la promo, à part s'il y a un prime time le soir, sinon tous les soirs et tous les matins, je suis à la maison, je suis en famille. Le week-end, voilà, j'amène les enfants au sport. Donc, ça reste un équilibre hyper important pour moi, ça reste une priorité. Quand la tournée va démarrer, moi, je ne fais jamais plus de 3 dates d'affilée, parce que voilà, je ne fais pas 25 dates par mois où je rentre jamais à la maison. Non, je fais 3 dates, je rentre à la maison 4-5 jours, je repars pour 2 dates, je rentre à la maison une semaine. Voilà, c'est des tournées du coup qui s'étalent un peu plus dans le temps, mais voilà, la base de ma vie doit toujours être le foyer, la famille. Voilà, je veux pas m'écarter de ça.
La scène pour toi, c'est un moment particulier?
C'est le plus important, c'est l'aboutissement de tout. Je, à aucun moment je fais un album, un projet sans imaginer la scène derrière. Du moment où j'écris, des fois même au moment d'écrire un mot, je me dis tiens, ça sur scène ça va bien passer, ou là à la fin d'un texte je me dis tiens, celui-là sur scène il va être bien festif. Au moment d'enregistrer évidemment j'y pense, au moment de faire la promo de l'album j'y pense, et puis voilà. Donc, et après là on est vraiment sur la partie artistique, créatrice de ce que va être ce spectacle.
Dans ton dernier album, Reflet, un titre qui s'appelle 2083, qui est un peu flippant, même si il dépeint un futur catastrophique assez potentiel.
Cher Fabien, tu ne me connais pas encore, je suis ton petit-fils. Je t'écris depuis l'année 2083. Je te passe ce message afin que ton époque réagisse. Ici, la planète va mal, il faut absolument que tu me croies.
Pour autant, tu gardes de l'espoir pour l'avenir?
Ouais, même si sur l'enjeu climatique, c'est difficile d'être très optimiste, hein, parce que... On a maintenant à peu près tous conscience, à part quelques oufs climato-sceptiques, mais on a à peu près tous conscience de ce qu'on est en train de vivre et de là où on va, et pourtant on change pas grand-chose à nos modes de vie. Alors nous, on essaye, nous les petites gens à notre niveau, on voit bien que ça suffit pas, donc c'est ce que je dis un peu dans ce titre. Je dis que bah voilà, si les politiques sortent pas de leur inaction, si les changements de comportement passent pas par des lois et nous contraignent à vivre différemment, on n'avancera pas. Donc ouais, dans ce titre, j'imagine mon petit-fils qui m'écrit depuis l'année 2083 pour me raconter comment ça se passe à cette époque-là, et malheureusement c'est pas beau à voir, mais malheureusement j'ai rien inventé.
Cher petit-fils, j'ai lu ton courrier avec effroi. Je crois bien avoir saisi l'ampleur de la crise. Mais pour te dire la vérité, pour nous en 2023, tout ce que tu me racontes là n'est pas vraiment une surprise.
Merci beaucoup pour ce moment d'espoir.
Merci à vous, gardez la pêche.
L'album s'appelle Reflet, il est sorti en octobre. Pour les dates de tournée dans notre coin, tu seras le 19 janvier à Saint-Étienne, le 14 mars à Clermont-Ferrand, le 20 mars à Lyon, dans une toute nouvelle salle.
Une toute nouvelle salle, oui.
Qui s'appelle le LDLC Arena, et le 22-23 mars, tu seras à Paris, au Zénith, à la Villette et dans plein d'autres villes de France. Merci beaucoup pour ce moment.
Merci à vous.
Je te laisse filer en montage.
C'est parti.
J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Grand-Corps Malade sur Radioscoop. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine, mercredi prochain, avec de nouveaux invités. La semaine prochaine, double ration. La chanteuse Oshi et une nouvelle voix, un talent dont vous allez beaucoup entendre parler. Elle s'appelle Esmé. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de ces entretiens sur Radioscoop avec les artistes sur radioscoop.com. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre fidélité et il me tarde de vous retrouver mercredi prochain. Salut !